Bonjour à tous et bienvenue dans Enquête d'esprit sur CNews et Europe 1. C'est la figure la plus connue de l'histoire, mais son existence est parfois remise en cause, Jésus. À Bruxelles, par exemple, une crèche sans visage a même été imaginée, laissant libre cours à toutes les projections. Mais qui était vraiment Jésus ? Un révolutionnaire, un prophète qui tient un discours de vérité, ou le Messie attendu par les Juifs ? Ou encore le Fils de Dieu lui-même, chose impensable à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui. Et que penser de ce mystère, un vrai homme et un vrai Dieu dont la vie terrestre s'achève sur la croix et qui aujourd'hui continue d'attirer à lui des milliards de fidèles de par le monde? C'est enfin une question qui s'adresse à chacun d'entre nous. Qui est vraiment Jésus? On en parle avec nos invités dans cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Nos invités, justement, je vous les présente. Le deux érudits, deux passionnés aussi de la figure du Christ, le père Étienne Métainier. Bonjour mon père. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes prêtre de la communauté des Béatitudes, bibliste, spécialiste des Saintes Écritures. Vous avez publié une traduction des quatre évangiles à partir de manuscrits en araméen, que vous lisez d'ailleurs dans le texte, et qui remonte au IIe siècle et donc au plus proche de l'époque du Christ. Et puis votre dernier ouvrage s'intitule « Les noms de Jésus ». C'est aux éditions des Béatitudes. Et vous êtes aussi participant du projet « La Bible en ses traditions » avec l'école biblique de Jérusalem, on en parlera. Avec nous également Jean-Christian Petit-Fils, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, auteur d'une quarantaine d'essais et de biographies, dont plusieurs ont reçu des prix littéraires. En 2011, vous avez publié une biographie purement historique de Jésus, qui a rencontré un succès incroyable dans tous les milieux, plus de 180 000 exemplaires publiés à l'origine chez Fayard et désormais en livre de poche. Et puis en 2015, un dictionnaire amoureux de Jésus, un exercice plus libre où vous laissiez libre cours à l'émerveillement. Bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous.
Et vous nous parlerez d'un saint, Saint Bernardin de Sienne, qui a prêché avec un seul nom, le saint nom de Jésus, et qui a agi véritablement sur les foules. Vous nous expliquerez ce phénomène étonnant. Alors justement, je le mentionnais dans l'actualité récente, eh bien, il y a eu cette crèche à Bruxelles, donc en Belgique, une crèche sans visage. C'est étonnant, trois poupées de chiffon, grandeur nature, avec à la place du visage un tissu bariolé de petits carreaux. Alors, Père Métainier, peut-être une première réaction pour commencer, parce que c'est intéressant pour le sujet qui nous occupe, hein, la figure de Jésus. Un Jésus et une crèche sans visage, finalement, c'est un peu l'inverse de ce que dit le christianisme.
Oui, Dieu s'est rendu visible. Ce serait absurde, même rationnellement, que le Créateur, l'auteur du monde, souhaite rester ignoré et sans relation avec ses enfants, ses créatures. On voit ça dans l'Évangile, les païens en Jean chapitre 12 qui veulent rencontrer le Christ disent à un apôtre « Nous voulons voir Jésus ». Et Jésus est l'image du Dieu invisible, dira plus tard Paul. On peut aussi penser chez nous en France à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont un des noms est de la Sainte Face. Nous avons tous soif de connaître notre auteur, d'où nous venons. Ça donne un sens à notre existence.
Alors, Jean-Christian Petit-Fils, un mot sur cette aventure extraordinaire qu'a été votre livre sur Jésus, je le disais, hein, près de 200 000 exemplaires aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce projet ?
Eh bien, j'ai voulu, au fond, montrer le versant humain de Jésus, puisque Jésus est vrai homme et vrai Dieu, et que le christianisme, on le néglige souvent, est une religion de l'incarnation. C'est la seule religion de l'incarnation. Le judaïsme et l'islam sont des religions de la transcendance. Le christianisme, c'est la religion de l'incarnation et bien entendu aussi de la transcendance. Et c'est finalement la seule religion qui nous permet de comprendre, de percevoir le mystère trinitaire de Dieu par les révélations.
Donc Père, Fils, Saint-Esprit.
Père, Fils et Saint-Esprit. Et Benoît XVI le disait, l'histoire est constitutive de la foi. Donc ça, c'est absolument capital. Un historien bien connu, agnostique, Marc Bloch, disait « Le christianisme est une religion d'historien ». Donc c'est cette approche historique est capitale. Et donc j'ai voulu faire une synthèse de tout ce qu'on savait sur l'histoire de Jésus, archéologie, exégèse, approche biblique, approche historique, histoire de l'Antiquité, qu'est-ce qu'on connaît de la période, de l'environnement politique, juridique, social, économique de Jésus, de la Palestine de son temps.
Et vous avez été surpris par le succès de ce livre ? Vous y attendiez ?
Non, je ne m'attendais pas à tel succès. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages de lecteurs me disant « ça m'a permis de progresser dans ma foi » ou « ça m'a permis de redécouvrir la foi ». Et évidemment, j'en étais fort heureux, puisque c'est un peu le but. J'ai voulu séparer tout de même, évidemment, l'aspect du croyant et l'aspect de l'historien. L'historien est obligé de s'arrêter devant les mystères. Le mystère de la résurrection, il ne peut rien dire du mystère de la résurrection, sinon de constater le tombeau vide avec le linge, le linceul qui s'est affaissé sur lui-même et rien n'ayant changé dans la pièce. Même chose pour les miracles. L'historien ne peut que constater l'effet produit par les miracles de Jésus sur les foules. Et il ne peut pas dire que ça s'est produit réellement. Voilà. Il faut bien distinguer les choses.
Alors, vous avez eu récemment dans l'actualité un lecteur de Marx, si je puis dire, un ancien président de la République, qui donc, lors de son bref séjour en prison, Nicolas Sarkozy, donc, avait ce livre sur Jésus, oui, votre livre sur Jésus. Est-ce que vous avez eu des échanges avec lui à ce sujet ?
Oui, alors, nous sommes vus quelques temps auparavant, quelques années auparavant, parce qu'il avait lu mon livre et il a été enthousiasmé par la lecture de ce livre. Et lui aussi m'a dit que ça avait permis de cheminer sur la foi, sur le chemin de la foi. Voilà, donc on a eu beaucoup d'échanges sur le Saint-Suaire de Turin, parce que j'ai écrit également un livre sur le Saint-Suaire de Turin. Et là aussi, on en a parlé ensemble.
Alors, on s'est rendu également dans la rue parce que, effectivement, la question se pose pour tout un chacun. Qui est vraiment Jésus ? Écoutez ses réponses. C'est Éloi Rochebrune qui les a recueillies.
Moi, c'est une personne à qui on peut... soutenir, on peut parler, qui est là pour nous, quoi, tout simplement.
Pas le mieux informé dessus, qu'est-ce que je peux dire sur lui, et que c'est toujours quelque chose qui nous fait nous rappeler de bons moments, de la période de Noël, par exemple.
Bon, je pourrais apprendre Jésus, le Fils de Dieu, tout, bon. Mais voilà que je ressorte mes cours d'instruction religieuse qui ont maintenant plus de 55 ans, donc c'est compliqué.
C'est quelqu'un qui a quand même qui ne devait pas être mal parce que 2000 ans après, on parle toujours de lui.
Il n'était pas d'accord avec un abat, avec une loi qui était abattardie. Il s'est rebellé et ça a donné lieu à des textes. Et plus tard, les chrétiens ont fait de ce rebelle, de cet anarchiste, le sauveur, le machin, le bidule.
Jésus, nous, les musulmans, on l'appelle Sidi Aïssa Jésus. Donc c'est un prophète des chrétiens.
C'est le sauveur. En soi, si vous le reconnaissez, vous aurez la vie éternelle.
Permettez-nous une réaction peut-être sur un de ces personnages qui s'est exprimé, Jésus comme rebelle et anarchiste. Que faut-il en penser ?
C'est un peu anachronique, mais ce qu'il y a en commun dans toutes les réponses, c'est que Jésus est quand même une personne, la personne de Dieu. Ce n'est pas une entité abstraite qui a fait l'univers. Et donc, ça fait 2000 ans qu'il s'est manifesté et que les hommes le cherchent. Donc, c'est nécessaire d'avoir cette approche historique, celle des historiens. La raison est un des talents reçus par l'être humain et il est absolument indispensable de l'employer. Ce n'est pas le tout de la relation avec Dieu. Il y a aussi un moment où cela relève de la foi. Mais la foi est liée à l'amour. Et dans toute relation d'amour, comme entre deux êtres humains, il y a besoin de confiance et de fidélité. Donc c'est un pas en plus après la raison.
Mais est-ce qu'il s'est, sur l'aspect rebelle, ça semblait dire, cette personne, que en fait, Jésus s'était émancipé de son milieu juif d'origine ?
C'est vrai qu'il a renversé les sagesses humaines de son temps. Il a apporté des choses qu'il était inimaginable. Il était impossible de les concevoir humainement parce que l'être humain, depuis la chute, est très abîmé. Quand le Christ demande d'aimer son prochain, qui peut inclure notre ennemi jusqu'à donner notre vie pour nos ennemis, ça, c'est vraiment de la rébellion contre toutes les tendances au mal ou la violence qu'il peut y avoir, malheureusement, si on est honnête, dans chacun d'entre nous. Donc il est venu nous en libérer, en ce sens, oui, c'est une belle rébellion contre ce qui était abîmé dans les cultures et dans l'humanité en général.
Véronique Jacquier.
Oui, quand je vois, quand j'entends les réponses qui sont faites sur Jésus, notamment de la part des jeunes, j'ai une question un peu iconoclaste, mais est-ce que justement la jeunesse a aujourd'hui les codes pour appréhender la figure de Jésus? Parce qu'on est dans un monde tellement déchristianisé, il n'y a tellement plus d'enseignement, que comment finalement cette figure peut-elle les marquer? Vous voyez, comment on enseigne aujourd'hui la figure de Jésus?
Il y a eu un gros échec dans la transmission depuis une soixantaine d'années. Mais il y a une curiosité quand même. Les gens ont les moyens maintenant de trouver en allant rencontrer d'autres chrétiens. Ou
via les
Internet.
Réseaux sociaux aussi.
Exactement, les réseaux sociaux. Mais là, ça demande aussi du discernement, oui, parce qu'il y a à boire et à manger. Mais on ne manque pas de ressources aujourd'hui. Partout, l'évangile est accessible, même au fin fond de la brousse, dans n'importe quel coin du monde, par Internet.
Alors, Jean-Christian Petit-Fils, pour les historiens, que peut-on dire sur la figure du Christ? Et d'abord, est-ce qu'il a vraiment existé? C'est la première chose, parce qu'effectivement, parfois, cette existence même est remise en cause.
Oui, il n'y a absolument aucun doute. L'existence de Jésus ne pose pas de problème. On a des textes anciens d'auteurs latins, Tacite, Pline le Jeune, qui nous parlent de Christos, de Christ, des hymnes que chantaient à la gloire de cet homme qui est mort. On a un texte de Flavius Joseph dans les Antiquités juives qui date de l'année 93-94, un texte assez long, assez dense, nous parlant de Jésus et de la résurrection que ses disciples disaient avoir vu. Donc il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. C'est seulement tardivement que s'est formée une petite école ultra minoritaire qu'on appelle les mythistes, ceux qui pensent que l'existence même de Jésus est un mythe. Autant on peut ne pas croire en la divinité de Jésus, ça c'est un problème de choix personnel, autant nier l'existence même de Jésus, ça me paraît absurde, parce qu'on en sait plus sur Jésus que sur certains empereurs romains. Dont on ne remet pas en cause l'existence, bien sûr.
Père Métainier, est-ce qu'aujourd'hui, nos contemporains, on est quand même dans un monde assez rationaliste, où on a besoin de preuves scientifiques? Est-ce que aujourd'hui, il faut peut-être davantage étayer cette historicité presque scientifique de l'existence du Christ?
C'est absolument indispensable et Dieu nous demandera compte de l'intelligence que nous avons reçue. Mais alors ça demande une certaine humilité quand même pour reconnaître et accepter l'humilité de Dieu qui est venu sur la terre, il s'est fait chair. Il y a eu un tel bouleversement dans l'histoire et les idées elles-mêmes ne changent pas le monde, ce sont des personnes. Et donc il y a vraiment une personne sans équivalent il y a 2000 ans. Et s'il y a encore une étincelle d'humilité, toute personne a la possibilité de le reconnaître et un jour d'y croire si on s'ouvre à lui.
Donc ce n'est pas uniquement par l'intelligence qu'on peut accepter cette existence et y adhérer.
Les deux sont nécessaires. Thomas d'Aquin parle de la raison et de la révérence. Il faut les deux pour entrer en relation avec Dieu. Il est lui-même le Verbe, la sagesse éternelle. Et donc, il y a besoin d'une certaine sagesse et intelligence de la part de l'être humain. Ce n'est pas de la superstition. Une foi qui ne s'interrogerait pas pourrait être du fondamentalisme.
Véronique Jacquier.
Père Métainier, est-ce qu'on découvre encore de nos jours des choses sur Jésus? Est-ce qu'on apprend encore? Est-ce qu'on découvre des documents en termes de recherche biblique, par exemple?
Alors, Dieu a donné suffisamment il y a 2000 ans, mais on ne cesse pas de redécouvrir des choses. Nous avons un groupe de 25 000 manuscrits du Nouveau Testament, c'est sans équivalent. Et on découvre toujours de nouvelles sources. Par exemple, la Sainte Catherine du Sinaï en Égypte, il y a 3300 manuscrits, mais 20% sont des palimpsestes, c'est-à-dire des textes écrits sur des peaux qui ont été effacés et réécrits. Et avec la technique moderne, l'imagerie multispectrale et l'intelligence artificielle, nous avons accès à ces textes. Alors, il ne faut pas attendre de nouveautés fracassantes. En revanche, ça nous permet d'entrer plus en profondeur dans une compréhension plus appuyée, plus solide, et aussi de redécouvrir la manière antique de recevoir le message, et non pas de façon anachronique, en arrivant plus de 2000 ans après. Et là, actuellement, il y a un retour à la compréhension sémitique. Toute la recherche exégétique porte sur ce sujet actuellement.
Vous-même avez donc, je le disais en préambule, traduit à partir de l'araméen. Qu'est-ce que ça apporte finalement, donc la langue du Christ, qu'est-ce que ça apporte à la compréhension qu'on peut avoir des Écritures aujourd'hui ?
Mais l'évangile n'est pas une invention des Grecs ou de Constantin, puisqu'en dehors de l'influence romaine, il y a quasiment les mêmes évangiles, mais avec une proximité très forte avec la langue, la culture et la religion de Jésus. Donc il y a 350 manuscrits des évangiles en araméen. Il est bon d'aller les travailler, non pas pour les opposer aux textes grecs, mais en complément pour fortifier nos connaissances et donc notre foi.
Alors, il y a à Jérusalem, où on va se rendre, une école qu'on appelle l'école biblique de Jérusalem, à la croisée de l'histoire et de la Bible, et qui justement étudie sur place l'historicité de la Bible. Regardez ce reportage signé Éloi Rochebrune.
Face à la remise en cause rationaliste de la Bible, le dominicain Marie-Joseph Lagrange crée en 1890 une école biblique et archéologique au couvent Saint-Étienne en Terre Sainte, pour, disait-il, étudier la Bible au pays de la Bible. Le frère Jean-Jacques Pérennès était directeur de l'école entre 2015 et 2023.
Indispensable d'être sur place. Il y a beaucoup de lieux dans le monde où on fait de très belles études bibliques, n'est-ce pas, et de très belles traductions. Je dirais que c'est tout de même préférable. Nous sommes ici dans des lieux qui sont très inspirants.
L'école est spécialisée en exégèse des textes bibliques. On lui doit notamment la fameuse Bible de Jérusalem. Elle participe aussi à de nombreuses fouilles archéologiques en Terre Sainte. Une trentaine d'élèves, prêtres et laïcs, viennent chaque année étudier à Jérusalem. Les cours sont dispensés par les dominicains, savants et religieux.
Comme Saint Jérôme, il faut être d'inlassables et humbles ouvriers qui ont du goût à la parole de Dieu. Finalement, c'est de ça qu'il s'agit. On est là pour servir une parole qui nous dépasse, qui nous est donnée, que nous avons à transmettre. Et voilà, on fait ça avec beaucoup de patience et de joie.
L'école biblique de Jérusalem poursuit l'héritage de son fondateur décédé en 1938. Elle relève l'immense défi de concilier foi et raison.
Peut-être une réaction, Jean-Christian Petit-Fils, sur cette remise en cause rationaliste dont on entendait parler dans ce reportage. Parce qu'effectivement, s'il faut se servir de la raison à côté de la foi, ce qu'on vient de dire auparavant, néanmoins, il y a quand même eu une tentative, et peut-être court-elle toujours cette tentation plutôt, de remise en cause rationaliste de la Bible. Quel est votre avis là-dessus ?
La remise en cause, elle a toujours été, elle est de tous les temps. Mais en même temps, on sait très bien que nous devons nous appuyer sur la foi et la raison. Ce sont deux piliers essentiels. Une foi totalement désincarnée, une foi qui ne reposerait pas sur les éléments fondamentaux de la raison. Ce serait un fidéisme souvent qui s'évapore, qui disparaît. La foi a besoin de solide, de concret. On se pose toujours des questions. Quand on écoute un évangile à la messe, on se pose des questions sur la réalité de telle ou telle scène, de tel ou tel passage, d'une parole du Christ. C'est pas un mythe. C'est ça qui est très, très important, c'est que les évangiles nous racontent des vies de Jésus avec des approches différentes, nous montrent comment Jésus a vécu dans la Palestine du 1er siècle. Et nous sommes là, nous voyons aussi par d'autres approches, notamment les approches archéologiques, des renseignements. Nous avons des renseignements très intéressants et même novateurs.
Il y a encore des choses nouvelles qu'on découvre, que les historiens découvrent.
Je vous en donne un exemple. Les recherches qu'on a faites tout récemment à Nazareth. On a découvert d'abord que Nazareth existait bien au 1er siècle, contrairement à ce que nous dit Michel Onfray, par exemple. Nazareth existait même avant, mais au 1er siècle et un siècle avant, existait. Et les travaux d'un archéologue britannique qui s'appelle Ken Dark sont tout à fait remarquables à cet égard, car il a découvert que... Il a trouvé, entre parenthèses, très probablement la maison de Joseph, Marie et Jésus. Bon. Mais surtout, il a découvert que ce petit village, qui était assez important quand même, c'était pas 200 habitants comme on l'a cru, mais un millier d'habitants, était très conservateur sur le plan de la foi. Il le voit à travers des poteries, des restes d'ustensiles ménagers. tout autour de Nazara. Nazara, ça vient de Netzer, on en reparlera peut-être, c'est-à-dire le rejeton de David. Eh bien, il a constaté donc, que c'est vraiment un milieu, on pourrait dire, intégriste, très fermé. Et que quand on fait quelques centaines de mètres plus loin des fouilles, en direction par exemple de la grande ville de Séphoris, qui a été à un moment donné la capitale de la Galilée, 12 000 habitants, c'est beaucoup plus important. C'est une ville marquée par Rome, par les Grecs, l'hellénisme. Eh bien, on voit des mélanges de poteries tout à fait différents. Donc, ce milieu est vraiment très, très particulier. Souvenez-vous de ce que disait Nathanaël. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? Alors, ce ne sont pas des Esséniens, on en reparlera peut-être aussi, c'est-à-dire ce groupe très fermé qui a rompu avec le temple, puisque les Nazaréens vont au temple chaque année, probablement trois fois par an. Mais c'est un milieu particulier. Donc, ça permet de comprendre comment Jésus a vécu dans ce milieu assez étroit et comment il s'en est extrait. Et aussi, comment on réagit les habitants de Nazareth, quand Jésus revient, nul n'est prophète dans son pays, on veut le lapider, on veut le rejeter, parce que, justement, il apporte une notion d'universalisme. Donc, vous voyez quand même comment une des découvertes archéologiques toutes récentes
apporte une lumière supplémentaire, en quelque sorte,
sur la vie, l'enfance de Jésus et les réactions qu'il a suscitées.
C'est vraiment passionnant. Vous, Père Métainier, vous êtes penché sur les noms de Jésus dans votre dernier livre. On va y revenir, bien sûr, dans la deuxième partie, mais vous en avez déjà recensé 120 à travers la Bible, donc l'Ancien et le Nouveau Testament. 40 sont expliqués dans votre livre. Mais la question qui se pose, c'est à quoi ça sert déjà ? Est-ce que ça donne un éclairage supplémentaire sur le Christ, là encore ?
Oui, Dieu est venu en personne dans l'histoire des hommes et il a soif d'être connu. Et chaque nom donne un de ses aspects. Donc, il est impossible d'aimer sans connaître d'abord une personne. Ça vaut entre deux êtres humains, deux amoureux, par exemple. Mais combien plus c'est valable pour la source de tout amour qui est Dieu. Donc, on ne peut pas se contenter d'une seule vieille image abîmée en noir et blanc d'une personne. On aime bien la voir avec beaucoup de représentations et avec tous les noms qui sont révélés, communiqués par l'esprit inspirateur des Écritures, on peut approfondir notre relation avec lui. Et c'est le but, grandir en communion avec lui. Nous sommes faits pour le ciel et là-haut, nous pourrons le connaître en plénitude. Et ça se travaille au cours de cette courte existence qui est une école d'amour.
Il y a un nom qui a votre préférence parmi tous ceux que vous avez recensés ?
Mais justement, on essaie de ne pas trop choisir. Le mot « hérésie » veut dire « choisir ». Mais on peut, les uns après les autres, les nommer « roi »,« cœur »,« bon pasteur », selon la sensibilité de chacun, oui.
Il était présent également, enfin, pas nommé en tant que tel, en tant que Jésus en tout cas, mais dans l'Ancien Testament, avant même qu'il apparaisse.
Depuis Abraham, donc 1850 ans avant Jésus, il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui se sont réalisées dans le Nouveau. Et donc Jésus est très clairement prophétisé dans de nombreux passages comme serviteur souffrant, le messager du Grand Conseil, c'est-à-dire l'envoyé de la Trinité. C'est assez clair, oui.
Alors, on va se retrouver après la pub et notamment avec la figure plus récente, pas contemporaine, mais plus récente en tout cas que l'époque du Christ, c'est Saint Bernardin de Sienne qui a utilisé le nom de Jésus pour évangéliser. Et vous allez voir, ça produit des phénomènes très étonnants. Et puis bien sûr, on s'interrogera, on ira aussi sur les différents lieux à Bethléem, à Nazareth, avec le frère Olivier Thomas Venard qui est dominicain et qui fait partie de cette école biblique dont on a parler. On se retrouve donc dans un instant, juste après la pub, avec nos invités. De retour dans Enquête d'Esprit sur CNews et Europe 1, en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique, nous parlons de la figure de Jésus. Qui est-il vraiment ? Et on en parle dans cette émission avec un prêtre, le père Étienne Métainier, qui est bibliste, qui a beaucoup travaillé sur les Écritures saintes et qui vient de publier Les Noms de Jésus aux éditions des Béatitudes. Et puis avec un historien, Jean-Christian Petit-Fils, auteur d'une biographie à succès, Jésus, c'est son nom, qui a été publié chez Fayard, désormais en livre de poche et diffusé à plus de 180 000 exemplaires, ce qui est considérable. Bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Et Véronique, vous allez nous parler tout de suite justement d'une figure étonnante, Saint Bernardin de Sienne, qui a réussi à convertir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde avec un seul nom, justement, le nom de Jésus.
Alors Bernardin de Sienne, c'est un grand prédicateur italien du début du XVe siècle, un frère franciscain. Et alors il sait merveilleusement s'adresser aux foules avec des mots simples, imagés, il fait même des blagues. Il faut quand même s'imaginer qu'à l'époque, le public était quasiment analphabète. Hein. Alors au centre de sa prédication, il y a la dévotion au saint nom de Jésus. Le fondateur des franciscains, saint François d'Assise, vénérait le nom de Jésus. Quand il le prononçait, on dit qu'il le savourait. Donc il y a une tradition franciscaine à évangéliser en faisant pas seulement connaître, mais en faisant aimer le Saint-Nom de Jésus. Alors comment il s'y prend? Ça pourrait être vraiment un showman aujourd'hui, parce qu'il a compris le pouvoir de l'image. Et quand il prêche, il a toujours avec lui une tablette en bois sur laquelle est représenté le monogramme IHS, c'est-à-dire Jesus Hominum Salvator, ce qui signifie en latin Jésus Sauveur des Hommes, le tout entouré de 12 rayons d'or, comme dans un soleil, pour qu'il soit objet de vénération. Et dans ses sermons, Bernardin dit à propos de Jésus, il faut connaître ce nom pour qu'il brille et ne pas le passer sous silence. Alors Bernardin va se faire des ennemis parce que cette dévotion au Saint-Nom de Jésus avec ce monogramme a un incroyable succès et donc il est accusé d'hérésie et d'exposer le peuple à l'idolâtrie. Le pape va s'en mêler, tout ça va finalement bien se terminer parce que la futilité des charges va être démontrée. Toujours est-il qu'il va poursuivre sa prédication en apprenant donc aux foules à aimer le saint nom de Jésus. Ça va donc remarquablement marcher. 100 ans plus tard, en 1530, la fête du saint nom de Jésus est accordée aux franciscains, puis ensuite étendue à l'église universelle en 1722. Et évidemment, les jésuites qui avaient compris la signification de ce monogramme et ô combien il était porteur, l'avaient déjà adopté comme un signe de l'ordre.
Et d'ailleurs, là, je signale, la fête, c'est le 3 janvier. Hein,
voilà, tout à fait, la fête du Saint-Nom de Jésus, c'est le 3 janvier.
Permettez-moi peut-être une réaction, parce que finalement, dans l'Église, on utilise beaucoup de méthodes d'évangélisation pour essayer de rejoindre le grand public. Aujourd'hui, il y a ce phénomène de la déchristianisation. Mais est-ce que cet exemple de Saint-Bernardin de Sienne ne montre pas finalement que le nom même de Jésus agit sur les esprits, sur les cœurs, par lui-même?
Le nom, c'est une personne dans la pensée juive. Donc le nommer, c'est vraiment désirer entrer en relation avec cette personne-là. Et quand c'est une personne divine, ça produit un effet en nous. S'il y a au moins une ouverture, une disponibilité pour la confiance, il y a toute la douceur de Dieu qui vient nous visiter. Dieu a soif que nous entrions en communion avec lui. Il est notre Père. Il a soif d'un dialogue. Il s'appelle le Verbe. Et le Verbe, ce n'est pas uniquement un monologue, c'est un dialogue entre lui, l'auteur de l'univers, et ses enfants.
Verbe, effectivement, c'est un des noms de Jésus que vous signalez dans votre ouvrage. Pour autant, pour nos contemporains, peut-être que le terme mérite d'être là aussi éclairci. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Verbe ?
Alors, ça vient à la fois du judaïsme, dans les traductions araméennes de l'Ancien Testament, il y a plus de 600 fois ce terme-là, qui est une présence réelle de Dieu. Pas encore dans la chair pour l'Ancien Testament. Et puis ça vient aussi de la pensée grecque. C'est une pensée éternelle d'amour dans la divinité. Et le Christ, dans l'évangile de Jean et l'évangile de Luc, se révèle souvent de cette façon-là. C'est une parole créatrice, une parole qui sauve, une parole qui console.
Qui est efficace, en fait.
Elle est efficace, c'est vraiment se mettre en présence, nos frères juifs, pour nommer le Seigneur par respect pour ses autres noms sacrés, le nom Hachem, c'est-à-dire le nom. Et là, c'est vraiment se mettre en présence et entrer dans tous les mystères de la foi contenus dans chacun de ces 120 noms.
Alors la personne de Jésus, c'est aussi un être donc historique, on l'a dit, donc de chair et de sang. On va rejoindre à présent un dominicain, le frère Olivier Thomas Venard, qui est donc professeur à l'école biblique de Jérusalem et qui nous explique ce qui se trouve sur les lieux actuels qui ont été marqués par notamment la naissance du Christ. On va commencer d'abord par Nazareth avec la basilique de l'Annonciation. Donc l'Annonciation, c'est effectivement l'ange Gabriel qui annonce à la Vierge Marie qu'elle va enfanter le Christ. Écoutez le frère Venard.
Quand on va à Nazareth, on visite la très grande basilique de l'Annonciation. Au premier niveau de cette basilique, elle enserre à l'intérieur même de la basilique une grotte qui était en fait la partie troglodytique d'une maison du 1er siècle. Troglodytique, c'est-à-dire qu'au 1er siècle, Nazareth est un tout petit village avec quelques dizaines de maisons peut-être, construites en dur autour d'anfractuosités dans le rocher. Et donc on a conservé comme le lieu d'habitation de la Sainte Vierge l'une de ces anfractuosités avec un peu de maçonnerie autour. Et aujourd'hui, c'est un peu le cœur de la basilique de l'Annonciation, si vous voulez, le centre de la piété qui s'y diffuse. C'est très touchant parce que ça nous permet de nous représenter la vie quotidienne qui pouvait être celle de la Vierge Marie et qui a pu être celle de l'enfance de Jésus, puisque c'était des petites habitations, peut-être 60 mètres carrés, qui bénéficiaient au maximum de la configuration naturelle. Et donc, on peut même se représenter les odeurs qu'il pouvait y avoir, puisque dans ces grottes, on creusait dans le rocher des silos pour entreposer les grains, l'huile, pourquoi pas le vin, et finalement toutes les paraboles de Jésus qui font allusion à la vie quotidienne trouvent assez bien leur place et une illustration pour ceux qui visitent ce genre d'endroit.
Alors, Jean-Christian Petit-Fils, une réaction de l'historien que vous êtes, puisque, effectivement, Nazareth, oui, c'est l'Annonciation, donc, c'est Jésus qui naît d'une vierge. Du point de vue de l'historien, est-ce que cette hypothèse est plausible ?
Alors, évidemment, l'historien ne peut pas se prononcer en tant que tel, mais il peut tout de même poser quelques jalons. D'abord, c'est en soi, cette annonce de la naissance virginale de Jésus, c'est plus gênant que valorisant, déjà à l'époque. Et aujourd'hui, on pose des questions, évidemment. Si on ne croit pas à la résurrection, on a du mal à croire en la naissance virginale. Mais il faut voir une chose, c'est que si deux évangélistes, Matthieu et Luc, et puis Jean aussi, à sa manière, dans le prologue, qui nous parle du Verbe qui s'est incarné, nous parle donc de cette naissance virginale, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, on peut supposer qu'elle a une source historique. C'est, nous savons, par les Actes des Apôtres, qu'au moment de la Pentecôte, même un petit peu avant, Marie, hébergée dans la grande maison de Jean l'évangéliste à Jérusalem, a parlé de l'enfance de Jésus, de ce qu'elle savait de l'enfance de Jésus, et elle a reçu en retour aussi des renseignements sur la vie publique de Jésus qu'elle connaissait, mais pas très très bien, puisqu'elle n'a pas suivi Jésus, ça ne faisait pas partie des femmes qui suivaient Jésus. Et donc, cette naissance virginale, qui apparaît dans les deux textes de Matthieu et de Luc, a une source qui est ce qu'a raconté Marie. Et on sait aujourd'hui aussi, par des analyses très précises qui ont été faites par le père Carmignac et puis par le père Laurentin, que à la base du chapitre 1 et 2 de Luc se trouvait très probablement un texte en hébreu ou en araméen, ça se discute, plutôt en hébreu, indiquant et qui avait été traduit en grec pour Luc, puisque Luc est un médecin d'Antioche qui probablement ne parlait pas l'araméen ni l'hébreu, et donc il a utilisé ces renseignements, et c'est pas lui qui a inventé les évangiles de l'enfance. Donc tout ce qu'on voit dans les évangiles de l'enfance, on peut considérer qu'il y a un fondement historique assez solide. Beaucoup plus solide, en tout cas, qu'on l'a cru. On voit des légendes un peu partout, l'étoile, les bergers, les rois mages. Eh bien, il peut y avoir une source historique très forte et qui provient de Marie. Marie a parlé, et Marie a parlé aux apôtres, et les apôtres ont intégré dans la foi cette vision qui aurait pu en effet être rejetée en disant « Bon, ben voilà, Jésus était un homme qui a été adopté par le Père. »
Ça a été une hérésie d'ailleurs au cours de l'histoire.
Nice, au moment du baptême de Jean.
Père Métainier, déjà le nom de Jésus, que vous citez donc dans votre livre, montre que la figure du Christ s'inscrit dans une généalogie. C'est la généalogie du roi David ?
Oui, alors Jésus, ça veut dire donc le Seigneur sauve, et on comprend un nom dans le Nouveau Testament par la personne qui porte le même nom C'est une lecture à la manière juive. Et donc, c'est le nouveau Josué qui est celui qui fait entrer le peuple dans la terre de la promesse. Et Jésus est celui qui nous permet d'aller au paradis si on le suit. Il est celui qui est victorieux des ennemis, c'est-à-dire de nos péchés, de nos passions désordonnées, de l'esprit du monde, de la mort. Et Jésus est le nom révélé par l'ange du Seigneur lui-même à Marie et à Joseph, selon Matthieu. On peut le nommer ainsi, notre Seigneur, de cette manière-là, mais parfois ces noms sont dévitalisés à force de les répéter. Donc il est important d'entrer dans la saveur. Comme ce sont des textes inspirés, ça devrait être une expérience à la fois historique et surnaturelle, une expérience de foi, de prononcer ces noms-là. Le Messie devait naître de la tribu de Juda, donc dans la descendance de David. C'est ce que Paul explique, hein, la divinité de Jésus est bien présente dans tout le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, chez Paul. Dans la descendance de David était attendu un rédempteur pour le monde entier, un roi universel et éternel. Et ça, c'est pas possible pour un simple être humain. Tous les rois sont mortels sur la terre et ils ne vont pas être acceptés par le royaume voisin.
Alors, on va se rendre toujours avec le frère Venard, dominicain de l'école biblique, à Bethléem, désormais, où se trouve, bien sûr, la basilique de la Nativité, mais il y a aussi un autre lieu qui est peut-être moins connu, qui s'appelle la grotte du lait, toujours à Bethléem. Écoutez le frère Venard.
Il y a un deuxième lieu à Bethléem très important qui garde la mémoire des premiers jours de Jésus, qu'on appelle la grotte du lait, et qui est vénéré depuis l'époque byzantine comme le lieu où la Vierge Marie, allaitant Jésus, aurait laissé tomber une goutte de lait. Et c'est pour cela, dit-on, que le calcaire de cette grotte est si blanc et surtout doté de pouvoirs miraculeux pour qui s'en approche dans la foi. Et c'est extrêmement touchant quand on y va. De fait, des dizaines, des centaines de couples qui ont des difficultés à avoir des enfants, il y a une petite dévotion que les franciscains ont développée depuis des années, et il y a de très nombreux ex-voto.
Alors Jean-Christian Petit-Fils, là on est évidemment dans le domaine de la tradition et de la foi, mais cependant la naissance du Christ à Bethléem, elle, pour les historiens, elle ne fait pas de doute.
Alors certains en doutent, si, faut bien le dire. Moi, je n'en doute pas du fait que Jésus appartient à un milieu tout à fait particulier qu'on appelle les Nazaréens. Et ces Nazaréens prétendent descendre du roi David. Et ce sont eux qui, ont fourni les généalogies, celle de Matthieu et celle de Luc. Ni Luc ni Matthieu n'ont inventé ces généalogies. Alors elles sont différentes, l'une part d'Adam, l'autre part de Moïse, mais ça vient de ce milieu très particulier qui s'est installé dans deux villages. Un village qu'ils ont appelé Kokaba, au sud de Damas, et un autre village qu'ils ont appelé en Basse-Galilée, Netzara de Netzer. Kokaba, c'est l'étoile, et Netzer, c'est le rejeton de David. Et quand on parle de Jésus de Nazareth, en réalité, c'est Jésus le Nazaréen qu'on vise. Jésus sera crucifié, Jésus le Nazaréen. Pourquoi ? Parce que les Nazaréens sont des descendants de David. Et il sera crucifié comme le prétendant au royaume, voulant restaurer le royaume de David. Donc, que Jésus soit né à Bethléem paraît tout à fait normal. Alors, il y a un problème historique. Bethléem, c'est la ville, entre guillemets, parce qu'on appelle ville même un village, la ville de David, ça paraît tout à fait normal. Reste le problème du recensement, puisque d'après Luc, ce serait le recensement de Quirinius. Or, on sait que ce recensement a eu lieu simplement en l'an 6. Seulement, des recherches ont été faites, et on pense qu'il y a eu un recensement antérieur qui aurait lieu à partir de l'an moins 8. Et on sait que Jésus n'est pas né en l'an 0 ni en l'an 1, mais probablement en l'an moins 7, moins 6, moins 7. Donc l'idée du recensement est tout à fait logique. Donc tout cela fonctionne et il n'y a pas lieu de douter de Bethléem de Judée. Il y a un petit village qui s'appelle aussi Bethléem en Galilée, mais là, il n'y a absolument rien à voir avec la naissance de Jésus.
Véronique Jacquier.
Une précision quant aux Nazaréens, pour qu'on comprenne bien, le roi David, c'était un roi qui était le bien-aimé de Dieu. Hein, et, mais vous parlez finalement, vous parlez de la spécificité des Nazaréens. Vous dites la restauration d'un royaume comme celui du roi David. Un, qu'est-ce que ça veut dire? Et deux, est-ce que ça veut dire que quand on pense Nazaréen, il faut penser seulement à action politique? Moi, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose de profondément spirituel, non? Chez ces Nazaréens, il faut qu'on comprenne.
Ah, oui, bien sûr, mais pour les Juifs, quand Jésus traverse Jéricho et voit l'aveugle, on lui dit « c'est Jésus le Nazaréen qui passe ». Et aussitôt, l'aveugle dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Bon. Il y a une attente aussi messianique qui est liée à l'occupation romaine. Le fait que après la mort d'Hérode et puis la mort d'Archélaos, eh bien, on a eu une occupation directe des Romains. La Samarie et la Judée sont occupées par un préfet, non pas d'ailleurs un procurateur, on parle toujours du procurateur, mais on le sait par une pierre qu'on a retrouvée à Césarée Maritime. Pontius Pilatus, préfectus, préfet romain. Bon, il y a une petite différence entre les deux. Donc, c'est un préfet romain qui administre. Donc, il y a une volonté du peuple juif de se sortir à nouveau en captivité, en quelque sorte, sur sa propre terre. Et on attend un libérateur. On attend un messie. Et cette attente messianique est donc ambiguë. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, Jésus va se trouver très gêné avec cette étiquette de Messie, Machia, celui qui a reçu l'onction. D'où l'idée de faire appel à une autre figure biblique, qui est celle du Fils de l'homme, qui figure dans le chapitre 7 de Daniel, et le Fils de l'homme, qui doit revenir à la fin des temps, c'est un personnage au-dessus même du Messie, puisque c'est lui qui va juger à la fin des temps les vivants et les morts. Et de temps en temps, on voit Jésus qui s'assimile pleinement au Fils de l'homme, et puis de temps en temps, il part du Fils de l'homme qui va revenir, comme s'il était un peu extérieur. Donc c'est assez étrange, mais Jésus ne dira qu'il est le Messie qu'à la Samaritaine, parce que la Samaritaine appartient à une autre division du judaïsme, que eux ils attendent le Taïeb, qui est une figure plus spirituelle que ce vainqueur, que ce personnage qui va révolutionner. Jésus est hanté un peu par la crainte d'être assimilé à un révolutionnaire. Et il sera présenté comme un révolutionnaire par les grands prêtres, exactement, en disant, voilà, nous sommes de bons collaborateurs, on vous livre Jésus, un Nazaréen, descendant de David, qui veut se faire roi, et qui dit, c'est plus la peine de payer l'impôt, etc. On voit donc ce Jésus qui essaye de... C'est plus du tout la même chose aujourd'hui, puisque la notion de Messie, la notion de Christ, Christos, c'est Messie, et à coller à Jésus, parce que c'est une notion spirituelle. Mais à l'époque, il y avait une connotation politique. Et quand il multiplie les pains, eh bien, on veut le porter, le mettre sur le pavois, et on veut qu'il parte à la conquête du pouvoir.
Alors, Père Métainier, il y a un phénomène très étonnant dans la succession de fêtes qui commémorent en fait la naissance du Christ. Il y a Noël, bien sûr. Et puis tout de suite après, il y a la fête des Saints Innocents, qui est fêté aujourd'hui même, hein, le 28 décembre, qui rappelle donc cet épisode du roi Hérode qui fait assassiner, il n'y a pas d'autre mot, tous les nouveau-nés de Bethléem, parce qu'il craint justement qu'il y ait là, comme lui ont dit les mages, la naissance du Messie. Qu'est-ce que ça veut dire que trois jours après Noël, on commémore ce massacre dans la foi catholique? Qu'est-ce quel sens on peut donner à cette succession d'un épisode joyeux et d'un épisode douloureux?
Dès les débuts, dès la manifestation du Fils de Dieu venu dans la chair, il y a une résistance de la part d'êtres humains et aussi des esprits déchus qui n'acceptent pas l'abaissement dans la chair. Or, le propre de l'amour, c'est de s'abaisser, dit Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est-à-dire que si Dieu était venu sous forme d'un empereur triomphant, un roi glorieux, un philosophe époustouflant, on aurait été comme contraint dans notre liberté de l'accepter. Alors que là, en venant dans la chair, c'est aussi le motif de révolte de Lucifer. Le sixième jour, selon la tradition de la création, Satan n'a pas accepté que Dieu fasse des créatures de chair vulnérables comme nous, parce qu'il y a un mépris de la chair. On voit ça dans beaucoup de gnoses, des systèmes religieux naturels. Et donc, cette résistance est concrétisée par un massacre. Alors, on n'est pas sûr historiquement que ce soit déroulé exactement de cette façon-là. Mais si l'Évangile le dit, les anciens n'étaient ni des menteurs ni des idiots. Donc, pourquoi pas? L'histoire n'a pas non plus transmis la totalité des événements comme une photographie ou comme un reportage à l'époque moderne.
En tout cas, ce qu'on sait, Jean-Christian Petit-Fils, c'est que le roi Hérode, donc, dont on parle, était un tyran cruel et sanguinaire.
Oui, et précisément au moment où on peut situer ce massacre des innocents, donc c'est dans moins 6 à peu près, eh bien, la paranoïa du roi Hérode, qui par ailleurs est un immense roi bâtisseur, mais la paranoïa n'a fait que s'accentuer. Il a peur de perdre son trône. Il a fait assassiner une de ses femmes, Mariamnée, et là, en l'an moins 6, il fait assassiner deux de ses fils, Alexandre et Aristobule. C'est au moment du massacre des innocents. On a un texte aussi ancien qui nous parle de Hérode qui a tué des enfants. Alors, on n'a pas, en effet, vous le disiez, père, d'un renseignement très précis sur les massacres des saints innocents à Bethléem. Mais Bethléem, c'était une petite bourgade. Et qu'est-ce que c'est que 10, 15 enfants dans l'océan de crimes d'Hérode le Grand.
Donc c'est tout à fait plausible.
Il est mort en moins 4, semble-t-il. Au moment de mourir, voyant que pressentant qu'on ne le pleurerait pas, il avait demandé à sa sœur de faire massacrer et d'enfermer 300 de ses courtisans les plus zélés dans l'hippodrome de Césarée maritime pour les faire massacrer de façon à ce que tout le monde puisse pleurer et donc pleurer lui-même l'empereur, donc, enfin le roi.
On peut signaler d'ailleurs, je le précise parce que ça rejoint aussi l'actualité, que le pape Léon XIV a récemment béni et installé au Vatican une crèche dite Provie composée de 25 000 rubans en lieu et place de la paille traditionnelle, ces rubans symbolisant un des enfants sauvés grâce aux prières de l'opération 40 jours pour la vie. Hein, c'est aussi une association bien sûr, ce qui rappelle que Noël est également un message de vie. Peut-être pour les quelques minutes qui nous reste parce que cette émission arrive à sa fin. Évidemment, on pourrait explorer énormément de choses sur cette figure de Jésus, mais il y a un point qui est quand même extrêmement important, qui a été rappelé par le pape d'ailleurs lors de son voyage en Turquie. Il est allé à Nicée, en Turquie, donc c'est là, fin novembre, où les pères de l'Église ont proclamé Jésus vrai Dieu et vrai homme, hein, ce qui nous ramène vraiment à la problématique, le cœur de la foi. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de l'abaissement de Dieu à Noël, bien sûr, hein, vous l'avez rappelé, Père Méteigné, mais sans oublier non plus la puissance parce qu'il est Dieu. Et ça, c'est très important, y compris aujourd'hui. Hein, Léon XIV a dit, aujourd'hui, on a tendance à nier cette divinité du Christ.
Oui, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que l'abaissement de Dieu en venant comme un petit enfant n'est pas une diminution de sa grandeur, de sa puissance, mais au contraire, elle est manifestée avec plus d'éclat. Elle n'est pas diminuée, mais magnifiée. C'est une inclination de sa miséricorde. Et lui, Dieu, a pensé que c'était ce qu'il convenait pour que ces créatures le reconnaissent et essaient de l'écouter en vivant selon le bien, en cherchant la paix et la joie, et non pas toute cette violence qu'il y a depuis le crime fratricide de Abel tué par Caïn.
Mais ça montre, enfin, il y a un continuum quand même dans la vie du Christ entre effectivement cet épisode de la crèche et le crucifiement, hein, c'est rappelé par des cantiques de Noël, et qu'après ce crucifiement, il y a la résurrection. Donc effectivement, dans ce petit bébé qui naît à Noël, il faut savoir voir aussi le Fils de Dieu qui va ressusciter à Pâques. C'est un peu le paradoxe.
Hein. Tout est déjà présent, même cette grotte dont témoignent les premiers témoins après les Écritures annonce le tombeau. La fête de Saint-Étienne aussi, que l'Église commémore quelques jours après, ça annonce la passion qui va suivre, mais pour une vie plus grande et meilleure.
Donc voilà, c'est toute l'espérance qui naît à Noël, effectivement, et qu'on peut en contempler à travers les traits d'un petit enfant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir éclairé la figure du Christ. Bien sûr, il y reste de nombreuses facettes dont on n'a pas pu parler, mais je renvoie à vos livres, Père Méteigné, Les noms de Jésus, aux éditions des Béatitudes, et puis Jean-Christian Petit-Fils, donc cette biographie Jésus, et puis aussi le dictionnaire amoureux de Jésus, hein, qui est là plus personnel, on peut dire.
Ah oui, tout à fait.
Ouais. Voilà,
qui montre des dictionnaires amoureux.
Votre passion dont vous nous avez fait part au cours de cette émission, c'est publié chez Plon. Merci beaucoup aussi à vous, Véronique Jacquier, qu'on retrouvera, je le signale, le 1er janvier pour la messe du début de l'année 2026, hein, qui sera celle de Léon XIV et que vous commenterez à l'antenne sur CNews. Et puis un dernier mot peut-être sur France catholique actuellement.
Bien sûr qu'il vous propose un numéro spécial Noël. Alors vous découvrirez le Jésus de l'histoire avec un entretien de Jean-Christian Petit-Fils, mais aussi vous découvrirez vraiment d'une façon spirituelle ce à quoi correspond la crèche, à quoi elle renvoie des mystères de Noël et de l'incarnation. Et France catholique, c'est bien entendu sur abonnement ou sur france-catholique.fr pour en savoir plus.
Voilà, merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. Une très bonne année donc par avance à tous. On se retrouvera le 4 janvier, pour vous parler d'une autre grande fête qui est celle de l'Épiphanie, hein, des rois mages notamment. Là aussi, quel sens à la fois spirituel et historique on peut donner à cet épisode de l'Évangile. Merci beaucoup à Aurélie Lucano et à toutes les équipes techniques de CNews. Et bien sûr, vous restez à notre écoute sur CNews et Europe 1.